Boomerang avec l'immense architecte Christian de Porzampar, c'est parti. Mais à l'heure d'un grand projet de loi sur l'évolution du logement, on doit quand même s'interroger sur ce que ça veut dire être bien logé. Et force est de constater que c'est une expression passionnante, puisqu'elle est presque toujours ironique. On l'utilise au sens figuré pour dire à son interlocuteur qu'il est dans une situation fâcheuse. Vous voilà bien logé. Un peu comme l'expression « logé à la même enseigne », ça n'est jamais pour le meilleur, vous avez remarqué. C'est une jolie façon de vous dire qu'on est dans la même situation pour le pire. On en est tous logés là. Bref, ça ne va pas. Et figurez-vous que ça ne date pas d'hier. Ne me demandez pas qui j'ai comme voisin de bureau, mais dans un vieux dictionnaire belge du début du 19e siècle, entre deux flandricismes, wallonismes et autres expressions impropres dans la langue française, j'ai retrouvé l'expression « je suis logé », qui voulait dire à l'époque que des soldats squattaient chez soi. Vous étiez bien logé quand votre logement était réquisitionné. Moi je dis ça, je dis rien. Mais à l'heure de ce grand projet de loi sur l'évolution du logement, le projet de loi Élan, il me semblait intéressant de s'interroger sur cette expression « être bien logé », au propre comme au figuré.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Que voudrait dire réformer le logement pour mon invité d'aujourd'hui? Il est bien placé pour avoir un avis sur le sujet puisqu'il en a construit des logements. Il est architecte, le premier français à avoir reçu le prix Pritzker, surnommé le Nobel d'architecture. Entre réalisations passées, projets en cours et à venir, il vient nous parler de son art ce matin. Bonjour Christian de Porzampar.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce qu'elle vous évoque tout d'abord cette expression « être bien logé » ?
Vous savez, pour tout le monde, ça veut dire avoir un toit, un bon endroit pour mettre son lit, une cuisine. Mais je pense qu'il y a une chose qu'on ne dit pas toujours. Être bien logé, c'est aussi le quartier où on est. Quelquefois, on ne peut pas choisir.
C'est peut-être pour ça que c'est devenu une chance, d'ailleurs, l'expression « être bien logé ».
Oui. Et donc, l'endroit où on est dans la ville... évidemment, est une chose extrêmement importante parce que ça rend la vie plus belle ou plus dure. Il y a des endroits dans la ville où il faut faire, dans certains endroits, 2 heures, 3 heures par jour pour aller à son boulot, et tout ça, c'est assez dur.
Autant de problématiques que vous vous posez en tant qu'architecte, cette formule « construire plus, mieux et moins cher », comme l'énonce ce projet de la loi Élan, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Dit comme ça, c'est un programme qui vous séduit?
Il faut faire très attention, plus vite, moins cher. Et là, il y a un danger quand on pousse le moins cher jusqu'à un point où on fait des choses qui seront mal foutues ou qui seront critiquées dans 30 ans. Je me souviens que les cités que l'on construit, dans les années 60, parfois, enfin assez souvent, on disait que c'était un peu de l'urgence, que ça resterait pas, que c'était provisoire. En fait, ça reste évidemment parce qu'il y a toujours des besoins nouveaux.
Quand est-ce que la question du logement s'est posée à vous pour la première fois? Là, c'est vraiment à l'architecte que je m'adresse.
J'étais appelé pour un concours qui s'appelait le Programme Architecture Nouvelle. J'ai été sélectionné et j'ai eu un deuxième concours pour la rue des Hautes-Formes. C'est moi qui l'ai appelé la rue des Hautes-Formes. C'est un endroit entre deux tours contre la faculté de Tolbiac où il fallait faire le maximum de logements. Et j'ai fait une rue, j'ai fait une place et ça a eu tout de suite un grand succès. Et les gens qui habitent là sont encore là.
C'est l'une des fonctions premières de l'architecte que de loger, Christian de Porzampar.
Oui, oui, sûrement. J'ai continué tout le temps à faire du logement, mais je l'ai toujours relié, c'est déjà présent dans les hautes formes, avec l'idée d'un quartier. On doit être un peu protégé et en même temps capable de pouvoir facilement avoir accès.
Et lorsque, pour la première fois, vous avez vu sortir de terre des barres d'immeubles, vous en avez pensé quoi, vous, d'un point de vue esthétique? Qu'est-ce que ça vous inspirait?
Alors, je me souviens avoir fait des photos quand j'étais lycéen à Rennes, les premières barres d'immeubles de HLM blancs bien propres contre les fermes en terre, ocre. J'ai cette photo toujours.
Ça vous fascinait?
Ça me fascinait parce que j'étais moderniste, j'avais 16 ans et je me disais un monde nouveau va naître, la misère qui existait aussi disparaîtra.
Mais vous employez l'imparfait.
Oui.
Vous dites j'étais. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ces grands ensembles à votre avis?
Le regard qu'on a pu avoir sur cet urbanisme très schématique, qui s'appelait l'urbanisme de la charte d'Athènes, parce que Le Corbusier avait amené les meilleurs architectes d'Europe dans un bateau jusqu'à Athènes, et ils avaient réfléchi au futur bonheur absolu, et avec une idée scientifique, avec le modèle de l'industrie, ils avaient pensé, mais aujourd'hui on a tout ce qu'il faut dans la technique pour faire les choses, enfin, la ville enfin réussie. Donc c'est une ville avec l'idée que l'homme, on peut le traiter en série, comme on fait des séries industrielles, et que les logements peuvent être en série aussi. On a besoin de chlorophylle, alors on va les espacer, on va mettre de la végétation. Cette végétation, c'est souvent devenu des zones et des parkings. On n'a pas pensé que la ville, c'est une chose qui se joue dans le temps, qui est très, très progressive, si vous voulez. Et là, on avait l'idée, on rase ce qui est ancien, qui n'est plus adapté et qui ne permet pas de faire aller assez vite les voitures. Et on met le truc nouveau où il y a les voies rapides des voitures et puis des zones. Et on a créé beaucoup de zones, zones d'habitat pauvres, d'habitat riches, d'activités, de bureaux, zones de sport. Et on a perdu complètement la ville.
Mais vous qui êtes allé très tôt, hein, à la fin des années 60, au devant des habitants de ces lieux pour recueillir, pour analyser leurs ressentis, Christian de Porzampar, est-ce que vous diriez que les architectes ont une part de responsabilité dans ce que sont devenus certains quartiers, qu'ils n'ont parfois pas pris suffisamment la mesure du facteur humain ?
C'est une responsabilité assez globale, vous voyez. Mais c'est évident que les architectes ont. Simplement, je me dis toujours, qu'est-ce que j'aurais fait, moi ?
Créer des ouvertures, désenclaver, relier les lieux entre eux. Vous êtes à l'origine d'un quartier à Paris, dans le 13e arrondissement, qui s'appelle le quartier Masséna, et vous l'avez conçu comme un îlot ouvert. Alors, il faut nous expliquer, qu'est-ce que c'est un îlot ouvert ?
Si vous voulez, de façon classique, les villes d'Europe sont faites à partir du système de la rue et de l'îlot. On comprend très bien. La rue s'est inventée 6 siècles avant Jésus-Christ en Grèce. Avant, c'était des agglomérats, ce qu'on appelle les médinas, vous voyez, les cellules agglomérées. Et vous avez la rue. La rue, c'est décidé qu'on dessine d'abord l'espace public, et après, on a des parcelles, et après, chacun va construire. Cette liberté de construire fait que chacun est collé l'un à l'autre. Ça a fait les plus belles villes d'Europe. À un moment donné, il y a eu Le Corbusier, justement, qui dit la mort de la rue. Il ne faut plus faire des rues. C'est anti-hygiénique. Les voitures circulent mal, ça apporte la tuberculose, il faudrait de l'air, il faut respirer, on va raser tout ça. Il était content, il disait à Romain Rolland pendant la drôle de guerre, c'est bien cette guerre qui s'annonce, ça va nous raser tout ce merdier. il voyait les choses comme ça. Il a apporté ce système des objets séparés, vous voyez. Cet système des objets séparés, il a une grande vertu, c'est que vous avez de la lumière tout autour, vous avez une facilité à aménager les logements, etc. J'ai gardé un peu de cette idée en disant on peut avoir finalement des immeubles un peu séparés. On peut faire des îlots où l'intérieur, la cour, n'est pas un truc fermé, sombre, comme beaucoup de cours parisiennes. Mais j'ai dit on pourrait ouvrir ces intérieurs et avoir des immeubles qui sont distincts, mais le long de la même rue. Donc je garde l'idée de rue, mais je fais des trouées, je fais des espaces entre les immeubles qui font que la lumière rentre. Vous avez différents immeubles tout au bord de ces rues. Un immeuble pourrait être détruit et puis reconstruit différemment et ça marcherait quand même.
Et vous aviez toujours en tête cet architecte que vous avez déjà cité et avec lequel vous dialoguez sans cesse depuis toujours.
J'ai ce péché capital, c'est d'être assujetti aux choses visuelles. J'ai des yeux et le dessin, la peinture, la sculpture, l'architecture, pour moi n'est qu'un seul phénomène. C'est symphonique, n'est-ce pas ? Et l'architecture exige certaines qualités de nature pensée, intérieure, n'est-ce pas ? C'est dans le cerveau que ça se passe, c'est de la conception. Et les autres choses en sont aussi, mais avec des possibilités manuelles telles que parfois, je le dis, c'est ma main qui va avant mon esprit, car elle a de telles habitudes et de telles possibilités extraordinaires. La main humaine est une chose formidable. Quand je dessine, eh bien, le dessin est fait avant que je l'ai pensé, hein. C'est contraire à toutes les théories que nous avons pu émettre autrefois quand nous étions plus jeunes. On disait qu'aucune chose ne peut être dessinée si elle n'a été pensée. Mais vous avez une bête à l'intérieur qui pense. Et cette bête commande à votre main qui pense. Et vous avez une masse instinctive puissante et une immense, une espèce un être vivant, n'est-ce pas, qui n'est pas que dans le cerveau.
Le Corbusier au micro de Georges Charansol en janvier 1962. Et il se trouve, Christian de Porzampar, que quand je vous ai demandé le premier dessin qui vous a frappé, vous m'avez répondu un dessin de Le Corbusier, la main ouverte.
Ah oui, j'avais peut-être 16 ans et je vois ça dans un livre. Je dessinais, je faisais des peintures, je faisais des petites sculptures, j'imitais les sculptures de Nicolas Chauffert avec la lumière. Et puis je vois ce dessin et je me dis, je découvre qu'au fond, on peut être ce métier-là d'architecte, faire des dessins dans lesquels on va se promener. Il y avait cette main et la montagne du Pendjab au fond. C'est un dessin qui est fait pour Chandigarh. Alors là, je suis entré dans un monde que je devinait mais ne connaissait pas.
Et ce qu'il dit sur le dessin, la peinture, la sculpture et l'architecture comme une seule et même chose, ça a beaucoup de sens quand on connaît votre parcours.
Ça a beaucoup de sens. Vous voyez, j'étais très critique sur sa théorie urbaine, mais je disais en même temps, au fond, c'est un artiste. Bon, vous voyez, j'avais jamais entendu cet enregistrement qui est extraordinaire. Et vous voyez, il avait une espèce de clarté d'expression en même temps, très simple. Hein. Et c'est un grand débat parce que j'ai fait un livre qui s'appelle « Les dessins et les jours » et je dis « L'architecture commence par un dessin », première phrase du texte. Et puis aujourd'hui, les architectes disent au contraire « Non, c'est le concept, nous on pense, le dessin c'est quelque chose de corporel, non, non, il faut penser ». Alors ça c'est une grande erreur, parce qu'en réalité ils disent ce qu'ils pensent, mais ils pensent toujours aussi à partir d'une figure. Ils ont un tracé, si vous voulez.
Et qu'est-ce qui se passe entre l'architecte et sa main ?
Il se passe évidemment qu'il y a un débat entre l'architecte et la main. On ne va pas croire que tout dessin est bon, il y a des dessins très trompeurs. Mais ce que je trouve d'important, c'est que tout ce qui est de l'ordre du visible, vous voyez, la peinture, la sculpture et l'architecture, à un moment donné, ça ne passe pas par le langage.
Oui.
Vous voyez ? Nous sommes des êtres d'espace, on a toujours ce côté animal, vous voyez, il dit la bête que j'ai en moi. C'est très vrai. Donc c'est très important qu'il y ait une espèce d'éducation là-dessus, rééducation, retrouver l'animal d'espace en nous.
Pour autant, l'architecture n'est pas un art de l'anarchie, Christian de Porzempart, si ?
Non, il faut l'ordre, mais il faut aussi une part de liberté. Sinon, c'est une chose qui est coercitive, que l'on ressent comme une dureté.
Oui, une part de folie.
Alors il faut les deux. Il faut une part de folie. Je dirais, il va falloir qu'on intègre le surréalisme dans l'esthétique de la ville, de mieux en mieux, parce qu'elle est faite de beaucoup de hasard et beaucoup de laideur. Je trouve que la laideur se multiplie. Alors évidemment, c'est très élitiste de dire ça, parce qu'on n'ose pas dire que c'est pas beau. Alors je prends des exemples. Non, mais il y a des endroits à Botafogo, à Rio, dans la baie, il y a toute une chose qui est normale. Et puis tout d'un coup, ils ont fait un immeuble en marbre avec des vitrages bleus, un truc clinquant, terrible. Et personne ne trouve ça beau. Eh bien, ça a été fait et ce sera là sans doute pour très très longtemps, si vous voulez. On a des choses qui apparaissent. C'est pas du tout les choses pauvres qui sont moches. C'est souvent les choses riches.
Ce que vous dites,
ratées,
c'est que l'architecte est aussi engagé par une forme de responsabilité.
Très grosse responsabilité. Faut pas non plus être intimidé, mais c'est un art public, donc on doit, des comptes, on doit l'expliquer.
Si on prend l'exemple de la tour, pourquoi je prends cet exemple ? Parce qu'on a en tête votre gratte-ciel 157 à New York. Qu'est-ce qu'on ressent lorsque petit à petit, durant les travaux, on voit le bâtiment s'élever, prendre de la hauteur, rejoindre le ciel ?
Dans la 157, il y avait une espèce d'amusante joie de monter par l'ascenseur de chantier, de découvrir New York et Central Park de si haut, de voir les rues si loin en bas, et de voir les charpentiers qui sont dans une espèce de joie, qui chantent et qui sont heureux de vous accueillir parce qu'ils se sentent sur le toit du monde. Mais la tour que j'ai faite, qui me plaît le plus, elle est plus basse, elle est sur Park Avenue, un peu plus récente, qui est plus petite, mais qui est plus vraie. Elle est habitée par des gens qui sont locataires, certains c'est des logements sociaux. Elle a des vues très bien partout, elle est intégrée dans la ville, elle a des restaurants en bas.
C'est une bonne question, qu'est-ce qui fait qu'un bâtiment est vrai pour vous ?
Non, là je dis il est plus vrai, en ce sens que les gens sont locataires ou une partie sont propriétaires, mais c'est des gens de la ville. C'est toujours allumé le soir, partout. Alors que la 157, il y a de la spéculation, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'appartements qui appartiennent à des gens qui habitent très très loin et qui ont acheté ça comme des billets de banque.
Donc vrai, c'est vivant.
C'est vivant. Je me souviens, le promoteur, quand on faisait cette tour, à un moment donné, je lui dis, il me semble qu'il faudrait un ascenseur de plus, on va faire les calculs. Il dit, non, c'est parfait, on a vérifié, c'est bon, Christian, c'est bon. Mais de toute façon, il y aura personne dans la tour, tu sais, il y aura des gens. 15 jours avant Noël, il y a des gens qui viendront faire leurs courses.
Alors là, vous vous dites quoi ?
Et il me dit, it's assets, c'est des placements. Je me dis, on est en train de construire des billets de banque superposés. Et c'est effrayant. On a ça partout dans Paris. Toutes les grandes villes ont beaucoup de logements. Les logements les plus luxueux, ils appartiennent à des milliardaires qui sont loin d'ici.
Faudrait-il les réquisitionner, Christian ?
Alors, je n'irai pas jusque-là, mais c'est une chose qui a affleuré dans le cerveau, évidemment.
Certes.
De certains, en se disant, mais c'est pas normal qu'on puisse faire ça. Alors, peut-être qu'on inventera des régulations, c'est vachement difficile.
Quel est le lieu où vous avez préféré vivre, vous qui avez si souvent voyagé ?
J'aime le changement. Donc j'ai adoré être à Rio, j'aime bien être à Paris, mais j'aime bien m'éloigner et revenir.
Mais s'il fallait en choisir un ?
Je ne crois pas que je choisirais. Je choisirais de pouvoir bouger Mais c'est peut-être qu'il va falloir que je me calme. Et que, mais j'aime l'idée de... Avec Elisabeth, on a toujours l'idée...
Votre épouse ?
Mon épouse. On a toujours l'idée qu'on va acheter un truc, quelque part. Et à chaque fois, on fait des plans, on trouve que c'est formidable, et puis on ne le fait pas.
Ça voilà. Voudrait dire, en creux...
Donc, on a cette idée qu'ailleurs, c'est mieux.
Que le voyage, le déplacement, le déménagement successif, ça a aussi fait de vous l'architecte que vous êtes ?
Peut-être un peu. Mais j'ai souvent ce haïku dans la tête, qui est haïku japonais. Le coucou chante là où l'on n'est pas. Voilà, c'est ce truc que ailleurs il se passe quelque chose. C'est malvenu pour un architecte, parce qu'il faut qu'il aime. Mais j'aime quand on fait un projet, on aime l'endroit où on travaille, où on fait ce projet, si vous voulez. On va le voir 10 fois, il y a une chose de... C'est un morceau de la terre. Et on se dit qu'on peut en faire quelque chose de beau, si vous voulez. Il y a quand même ça qui est fort.
Je propose, Christian de Porzamparc, de partir ailleurs, ensemble, tous les deux, pour repartir encore à New York, tiens. Et à ces boulevards crasseux, ces Dirty Boulevards que chantait Lou Reed en 1989 sur l'album New York, et d'où il s'agissait en l'occurrence de s'échapper. Vous êtes sur France Inter avec Christian de Porzamparc. Vous écoutez Boomerang.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. Outside it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. Count of 3 says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah, from the dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly, 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 fly from the dirty boulevard. I want to fly away. I want to fly, fly, fly away, yeah. I wanna fly, fly, fly away.
Fly, fly.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas dirty. Il a quelque chose de l'élégance triomphante, vous savez, quelque chose de celui qui roule à 300 à l'heure sur l'autoroute sans jamais se faire pincer. Quelque chose de celui qui conduit une navette spatiale à plus de 300 km de haut, les yeux fermés pour ne pas dire les doigts dans le nez, cheveux bouclés gris, ramené en arrière, regard bleu avenir, costume fort bien coupé. Ce matin, l'architecte Christian de Porzamparc, invité de Boomerang, pour parler de son art. Parmi tous vos projets, vous avez actuellement 2 grands chantiers en cours, un centre d'art à Casablanca et un centre culturel en Chine, à Suzhou. Première question pour un architecte, combien de mois de retard avant la livraison de l'ouvrage définitif ?
Déjà, je ne me sens pas du tout comme vous m'avez décrit. Mais pas du tout.
C'est une, enfin, bon, c'est une idée.
C'est le miroir. Combien de retard il y a des... Oui, ça a été lent.
Il y a toujours du retard, en fait.
Il y a surtout du retard dans ces grands équipements.
À quoi correspond le moment de la construction ? Quel moment est-ce que c'est pour vous ?
C'est un moment où les choses prennent corps. Et Le début est un peu fastidieux. Il y a toujours un grand trou, des pieux, des fondations. Ce qui est très, très étonnant, c'est quand ça commence à apparaître. Vous voyez des morceaux vraiment qui apparaissent. 5 mètres, 10 mètres de haut, vous voyez le début d'une voûte, d'un mur, d'un endroit. Et là, je regarde et j'ai le recul de me dire, je regarde comme si je ne connaissais pas. C'est un autre qui a fait ça.
C'est un moment d'angoisse aussi ?
Non, c'est un moment de curiosité intense et souvent un grand plaisir. On dit, ah, ça y est, c'est ça. Et il y a des choses que vous avez voulu qui vous apparaissent formidables et des choses que vous avez beaucoup travaillé et voulu et vous dites, bon, ben, c'est pas si extraordinaire, ça, c'est banal.
Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'on sort du cabinet, qu'on sort du dessin, précisément, pour voir les choses se réaliser humainement aussi. On a le souci humain, je suppose, des hommes et des femmes qui travaillent sur le chantier, dans des pays où le droit du travail n'est pas le même qu'ici. Je pense au Maroc et à la Chine, justement, puisque ce sont vos projets en ce moment. Quelle question est-ce que ça pose à l'architecte ?
Je me souviens, le moment le plus rapide de la construction de la structure de la Cidade d'Azart à Rio, il y avait 3000 ouvriers sur le chantier, tous avec un uniforme jaune. C'est un chantier de précontrainte, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'échafaudages. C'était impressionnant, j'avais peur que ça puisse donner des accidents, quoi. Il n'y a eu rien, il y avait une organisation formidable.
Vous veillez à ça ?
Ben, je suis obligé, c'est pas moi qui veille le premier, mais il y a toujours un bureau de sécurité qui est obligatoire, qui s'occupe de ça et qui se réunit chaque semaine et qui vérifie tous les jours toutes ces choses-là. Et nous sommes responsables et parties prenantes, donc on doit suivre si c'est bien respecté. Oui.
Faut-il, Christian de Porzamparc, que la réalisation du bâtiment soit forcément tout à fait conforme au dessin que vous aviez imaginé ? Ou est-ce que vous vous accordez, pendant la construction, toujours un tout petit peu de liberté ?
Bon, je m'accorde toutes les libertés, mais l'entreprise ne me les accorde pas. Ils me disent, non, on fait le marché, tout le marché, rien que le marché et pas autre chose. Parce que c'est une règle, si vous voulez, et quand je demande une modification, il faut la négocier. Et quelquefois, il y a une espèce d'empathie, et malgré ceci, malgré cela, le maître d'ouvrage et l'entreprise acceptent une modification. Quelquefois, elle est nécessaire. Mais enfin, en gros, ça perturbe l'agenda. Donc, on est de plus en plus sur une marche à suivre qui est qu'on ne change rien. Et s'il y a une erreur, elle sera construite.
Qu'est-ce que c'est un bâtiment réussi pour vous, Christian de Porzamparc ?
Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut que, je vous le disais tout à l'heure, la vie. Il faut que ça vive et ça réponde à une vie qui était espérée. Il faut qu'on se dise que peut-être la vie va changer, que peut-être que ça sera interprétable par d'autres choses.
Faut que ça dure.
Que ça dure. Et durer, ça veut dire que peut-être des bureaux seront transformés en logements. Et que ce soit possible. Donc on est aussi amené à penser à ça. Et puis, il faut que, par rapport aux autres bâtiments qui sont autour et au site et au lieu, il faut qu'il y apporte un peu de bonheur, une fraîcheur, quelque chose qui intrigue, qui amuse ou qui crée quelque chose, l'attention. Et puis il y a quelque chose qui n'est pas explicable, qui est l'esthétique, on n'arrive pas à savoir en parler. C'est ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que tous les goûts sont dans la nature. Aujourd'hui, on peut tout faire. Alors qu'autrefois, il y avait une espèce de style du siècle, il y avait le même matériau, la même façon de faire. Donc il y avait une harmonie, si vous voulez, presque obligatoire. Aujourd'hui, tout est possible. Donc on peut avoir le truc les plus anarchiques imaginables. Alors, moi je dis, il vaut mieux essayer d'aimer l'anarchie et de jouer avec que de ramener un ordre qui va être toujours contraignant et un peu faux. On n'a plus l'ordre naturel d'avant.
Je vous écoute et je me dis, c'est intéressant quand même de penser à ce que l'architecte laisse derrière lui. Vous deviez laisser des peintures, vous laissez des bâtiments. Est-ce que vous diriez qu'on ne peut pas faire ce métier sans une certaine folie des grandeurs ?
Ah, je ne dirais pas ça, parce qu'il se trouve que je suis amené là ces derniers temps. J'ai pas mal de bâtiments, plutôt des théâtres, des salles de musique qui sont assez grands. Mais l'idée de faire une maison, une petite maison, me plaît beaucoup. J'ai moins de demandes, j'ai moins eu l'occasion. Par exemple, j'ai fait les chais d'un vignoble, Cheval Blanc. C'est pas très grand.
C'est pas n'importe quel vignoble, Christian.
Oui, c'est vrai, mais non, mais les projets qui sont petits me plaisent beaucoup. Je pense pas qu'il faut avoir une folie des grandeurs, et je me méfie beaucoup, justement en Chine, des projets qu'on est en train de faire, qu'on nous demande d'étudier, qui sont immenses. Il y a une appétence, il y a un plaisir du grand en Chine.
C'est-à-dire qu'il faut se censurer un peu.
Non, mais quelquefois le programme, il vous demande que faire un bâtiment de 400 mètres de long. Et je leur dis, attendez, c'est plus grand que l'aéroport de Shanghai-Pudong. Regardez, c'est inhumain, si vous voulez. Si l'animal est perdu, je leur dis, ça va pas être bien. Mais il faut du temps pour comprendre, parce qu'ils aiment bien quand c'est très très grand. Et c'est quelque chose... Non, je veux pas dire qu'on doit avoir la folie. Il faut avoir aussi la folie de la petitesse. la folie d'une chose petite et très bien faite, si vous voulez, d'une pièce, une chambre. Non, non, il ne faut pas penser l'immensité comme une qualité.
Je voudrais qu'on bâtisse ensemble, pour terminer cette émission, Christian de Porzamparc, une ville idéale. Ça serait une ville mouvante, évidemment, je vous ai bien entendu. Ça serait une sorte d'îlot ouvert où seraient réunis vos monuments préférés, vos bâtiments préférés, par les plus grands architectes au monde. Vous êtes prêts? On commence par le musée primordial, votre musée préféré.
Il y en a plusieurs, je pense que... Mais le MoMA, je le trouve très beau. Donc,
la mairie, une grande mairie.
J'ai pas de grande mairie que j'adore. J'aime beaucoup. Je pense que le Sénat de Niemeyer à Brasilia est un des chefs-d'œuvre du XXe siècle. C'est un ensemble qui est exceptionnel, je trouve. Exceptionnel.
La place du village, la place du commerce, la place principale.
Écoutez, Vigevano, la place Ducale. Et puis à Venise aussi.
La place Saint-Marc.
La place Saint-Marc. Mais on a des belles places à Paris aussi, et les petites sont bien.
Il nous faudrait un grand parc aussi, Christian de Porzamparc. Du vert, de la nature.
Les buts de Chaumont, le parc Montsouris sont pas mal.
Ça ressemble pas mal à Paris, votre ville idéale, dis donc.
Mais j'aime beaucoup Central Park. Pour une des raisons, c'est qu'il y a ce rapport coupé entre l'architecture, le bâtiment, la falaise construite, et puis le parc qui est sauvage, enfin qui voulait être la nature primitive. Alors ces chocs de l'un contre l'autre, je trouve magnifique.
Il nous faut une boîte de nuit aussi. Il nous faut des lieux interlopes quand même.
C'est toujours au bord des rivières et des canaux. Regardez au Japon, tous les lieux de la nuit, c'est toujours des lieux où vous vous promenez le long d'un canal et où il y a l'offre d'une quinzaine, une vingtaine, une centaine de boîtes, de bars, de trucs interlopes comme pour le coup, etc.
Vous en construiriez ?
J'adorerais faire un quartier nocturne. Oui, oui. J'adorerais ça, mais pas tout seul. On serait toute une bande de fous et chacun ferait un truc. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Justement, ça, c'est une préfiguration d'une espèce de perception un peu surréaliste de la ville qui est une joie et où la laideur pourrait être inclue. Vous savez, je vous ai dit, il y a des choses laides. Moi, je dis que l'idéal dans le futur, c'est qu'on sera faire quelque chose qui inclut aussi la laideur qui fait partie de la musique, que ça passe quand même. Parce qu'on ne peut pas espérer avoir tous le même goût. Alors, j'aimerais ça, mais c'est difficile à... Je ne suis pas encore tombé sur le promoteur qui veut faire ça et qui me le demande.
Pour parfaire notre ville idéale, c'est ma dernière question, il nous faut un lieu secret, un lieu connu de vous seul. Ça peut aller de l'impasse obscure à la cabane dans le jardin de votre enfance. Un secret.
Ah ben c'est peut-être la cabane de l'enfance, c'est en Bretagne, des longues prairies, une maison très vieille, une petite ferme, une petite chapelle, un étang. C'est l'apprentissage d'un monde, oui. Mais pourtant, j'ai été ensuite complètement urbain. Hein. Mais ça a nourri beaucoup mon rêve.
Je vais vous dire, je l'adore, notre ville idéale. Christian de Porzamparc, merci infiniment d'être venu poser votre pierre à l'édifice de Boomerang. Je rappelle que vos œuvres, pour ne parler que des Françaises, sont visibles à Paris, du quartier de Masséna, au siège du journal Le Monde ou La Cité de la Musique, en passant par l'U-Arena, jusqu'à Nanterre avec l'École de Danse de l'Opéra de Paris, à Lyon avec l'Hôpital de la Croix-Rousse, à Nantes avec le quartier du Tripode. Bref, on ne les compte plus, vous êtes partout, un petit peu comme Dorothée Barba d'ailleurs et son instant M, tout en ubiquité qu'on retrouve juste après ça.
Sa la bande dansée.
Le Jardin, Étienne Dao sur France Inter.